Vous êtes sur RTL.
Qui nous a tant surpris, la manière dont il est interprété, vécu, j'ai envie de dire. Et c'est peut-être une des images les plus fortes de l'Euro que cet hymne chanté par les joueurs italiens.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Le tribunal correctionnel de Paris a donc prononcé ce matin des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis contre 11 jeunes gens jugés pour avoir participé au cyberharcèlement de Mila après la publication par l'adolescente d'une vidéo polémique sur l'islam. On est avec Sabine. Sabine, oui, qui est avocate et qui va pouvoir commenter cette décision, si j'ose dire, même si c'est toujours délicat de commenter une décision de justice.
Alors, c'est pas tout à fait la décision. Enfin, si, c'est la décision. En fait, je salue le fait que, pour une fois, il y a quand même une jurisprudence qui prend en compte le cyberharcèlement, alors qu'on nous disait que c'était très compliqué jusqu'à présent de remonter jusqu'au cyberharceleur. Donc ça, là-dessus, c'est très positif. En revanche, le cyberharcèlement est un délit qui est condamnable de 2 ans, jusqu'à 2 ans de prison et jusqu'à 30 000 euros d'amende quand la personne qui en est victime a plus de 15 ans. Là, on est à 4 à 6 mois avec, sur l'article 475 sur les dépens et les frais, 1 000 euros, 1 500 euros d'amende. Autant dire que ça ne va peut-être pas être assez dissuasif pour des gens qui se retrouvent derrière leur ordinateur pour avoir 4 à 6 mois. Autant dire que ça n'a aucun impact sur leur vie. Voilà. Donc, l'un des 13 prévenus a été accusé aussi pour menace de mort. Donc, en fait, on prend 6 mois de prison quand on menace quelqu'un de mort. Je pense qu'on risque plus en faisant d'autres délits qui sont bien, bien moins graves. Voilà.
On peut vous rejoindre, hein, bien évidemment, sur cette argumentation. Mais j'ai envie de dire que ce jugement, quoi qu'il arrive, c'est du mercurochrome sur une jambe de bois. Le cyberharcèlement, Sabine, c'est quoi? C'est par le numérique et c'est par Twitter, principalement, aujourd'hui.
Par les réseaux sociaux.
Par les réseaux sociaux. Et principalement, disons-le, Twitter. Pourquoi? Parce que Twitter est un réseau anonyme. Donc la vraie cause, et ça là, l'impuissance politique, l'impuissance de la France, mais l'impuissance également des États européens à légiférer, il faut lever l'anonymat sur Twitter.
Mais
il
si
faut
vous levez l'anonymat...
lever le pseudonymat lorsqu'on s'exprime par un pseudonyme. C'est ça le fond de l'affaire.
Mais Pascal, vous êtes bien d'accord qu'ils sont quand même réussis quand on s'en donne les moyens. On a quand même réussi à remonter sur... Alors, il y avait des centaines de personnes qui ont envoyé des messages plus que délictueux à Mila. Mais quand on veut, on peut remonter.
Oui, mais c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que si vous obligez les gens à communiquer sur Twitter avec leur véritable identité, croyez-moi, ils n'écriront pas ce qu'ils écrivent quand ils écrivent sous pseudonyme.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mais vous enlevez même l'essence. Enfin, là, vous voulez toucher à l'essence même de Twitter. Et si vous faites ça, Twitter n'aura plus de raison d'être.
Mais pourquoi ? Il y aura quand même des gens qui pourront échanger. Moi, il y a plein de gens qui ne sont pas anonymes, et tant mieux sur Twitter. Il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de personnalités qui sont sur Twitter.
Mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas ceux-là qui s'expriment par rapport à Mila et qui.
Non, mais vous dites Twitter sera mort sans les anonymes.
Mais bien sûr, parce que c'est bien ça. Si vous voulez, le flux qui fait vivre Twitter, ce sont pas les journalistes, les personnes. C'est pas ça. C'est le quidam, c'est
n'importe qui. Mais le quidam, il a envie peut-être de s'exprimer. Il y en a beaucoup qui s'expriment sous leur nom. Moi, j'espère que, en tout cas, que Facebook, par exemple, c'est pas anonyme. Et alors, il y a des pseudos également sur Facebook, mais c'est
bien
différent. Instagram également, mais Twitter, qui est d'une immense violence, qui est d'une même. Comment est-ce qu'un État peut tolérer en fait Twitter?
Mais c'est parce que ça laisse cette liberté que c'est le plus discutable et le plus usité. C'est bien pour ça. C'est parce qu'on sait que derrière, il y a l'impunité et on peut laisser...
Mais j'entends, Sabine, ce que vous dites, mais un État n'a pas à laisser...
Mais je ne suis pas d'accord.
Mais si vous n'êtes pas d'accord, il faut prendre des décisions. L'impuissance d'un État... Et bien, donc que l'État ne vienne pas se plaindre du cyberharcèlement. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais bah si, vous avez des députés qui montent au créneau, vous avez des représentants de l'État. La véritable décision, elle doit être prise et c'est celle que je viens de dire.
Alors, en Europe, c'est à l'Europe
que ça doit prendre une décision. Mais vous avez parfaitement raison. Et c'est l'impuissance aussi de l'Union européenne parce qu'il faut que les 27 soient d'accord. Et comme les 27 sont d'accord en gros sur rien, il n'y a pas de raison qu'ils soient d'accord aussi sur Twitter. Non, ça je dirais pas ça.
Mais vous pensez franchement que c'est leur première préoccupation ?
Mais ça devrait, parce que c'est d'une violence inouïe et c'est ce qui pourrit le débat public.
Et en fait, c'est pour 2500 euros par prévenu sur 12 prévenus qui va réparer le fait que cette gamine, elle ait une vie complètement foutue. C'est ça que l'État pense.
L'État devrait la défendre. Bon, on va marquer une pause. J'ai l'impression qu'on a sonné chez vous, Sabine.
Non, mais ça y est, ça a répondu. Vous inquiétez pas.
J'ai l'impression que vous êtes où là ? Vous êtes dans votre cabinet d'avocat, peut-être ? Parce que vous êtes avocate, vous êtes chez vous ?
Oui, cet après-midi, je vais à mon cabinet. Ce matin, j'avais des rendez-vous.
Et donc vous êtes chez vous. Mais qui est-ce qui a sonné chez vous ?
Mais quel curieux !
Non, mais qui est-ce qui a sonné ? Qu'on sache quand même. Qui a sonné ?
Je ne sais pas moi-même.
Il y a des gens qui sonnent chez vous et vous ne savez pas qui vient chez vous ?
Non, je ne sais pas. Je ne suis pas seule chez moi.
Mais alors, qui a répondu ? Qui a ouvert la porte ?
Eh ben, je pense que c'est ma fille.
C'est votre fille qui a... Et elle a quel âge, votre fille ?
Elle a 14 ans.
C'est pas un petit copain, peut-être, qui vient la voir ?
Ah non.
mais attendez, Sabine.
Pas encore à la maison.
Donc c'est une amie, un ami qui vient avec elle faire des révisions ?
Je pense que c'est son repas, en fait.
C'est son repas qui vient. Son repas sonne. Et non, voilà. ça c'est parce qu'on entend tout aujourd'hui. J'ai entendu regardez, il y a encore une petite sonnerie, j'ai l'impression.
Ouais, mais là je sais pas ce que c'est, je pourrais pas vous dire.
Il y a du monde qui défile chez vous, si vous me permettez. Sabine, j'ai l'impression qu'il y a du passage. Il y a du passage, Sabine.
C'est tout à fait ça. C'est bien pour ça que je suis rentrée.
Mais oui, parce que vous avez combien d'enfants, Sabine ?
Non, j'en ai que deux.
Oui, mais il y a du monde. Faites attention parce que quand ils sont pas là, ils organisent des fêtes. C'est sympa comme tout. Vous retrouvez votre appartement vraiment dans un état. Oui, mais elles sont grandes. Mais c'est merveilleux. Vous allez vous rentrer le soir et puis hop, il y a 25 personnes dans le salon. Vous n'aviez pas imaginé. C'est vivant. Et puis les rideaux sont cassés. Tout ça, mais c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie.
Vous allez voir quand ça va partir, quand ça n'existera plus.
Ça sera terrible, Sabine. Et puis il y a un truc. Parfois, figurez-vous qu'ils fument, ces jeunes gens. Ça arrive parfois,
oui,
les jeunes gens. Alors qu'à notre époque, on fumait pas, bien évidemment. On ne buvait pas, on fumait pas. Merci Sabine.
Merci
bon,
beaucoup,
je suis
Pascal,
content parce que personne n'a sonné là depuis 30 secondes.
Vous avez vu ? Voilà, c'est chez vous maintenant. C'est
C'est Greg Caradoni qui s'amuse avec des sonneries. Non, mais franchement, Greg.
C'est la pause qui frappe à la porte, qui sonne à la porte.
La pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous entendez le mythique Fratelli d'Italia chanté hier soir par les joueurs italiens. Et c'est l'une des images de l'Euro, cet hymne italien chanté par les joueurs qui vivent leur hymne, qui le célèbrent. Il y a une émotion d'ailleurs incroyable et ça nous renvoie à la manière dont nous chantons notre hymne. Certains d'ailleurs ne le chantent pas, d'autres le susurrent. Donc c'est formidable parce que tout fait sens en fait. Et je voulais vraiment entendre les auditeurs sur cet hymne italien parce que à chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons. Laurent Tessier.
Et c'est vrai que ça transporte les joueurs. On le voit même après sur le terrain.
Je suis d'accord.
C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10. Des peines de 4 à 6 mois de prison avec sursis prononcées dans l'affaire du cyberharcèlement de Mila contre 11 personnes. Un soulagement pour l'adolescente à la sortie du tribunal.
Je m'attendais à bien pire et honnêtement, on a gagné. Et on gagnera encore.
Est-ce pour vous suffisant ? Les accusés âgés de 18 à 29 ans étaient jugés pour avoir diffusé des milliers de messages de haine et des menaces de mort après la publication par l'adolescente d'une vidéo polémique sur l'islam. Mila ne compte pas arrêter son combat.
Ce que je veux, c'est que tous ensemble, on n'arrête jamais de baisser les bras, qu'on continue de se battre. Ce que je veux, c'est que les personnes qui seraient considérées comme des pestiférés, à qui on interdirait les réseaux sociaux, ce soient ceux qui harcèlent, ceux qui incitent au suicide. Et je veux plus jamais qu'on fasse culpabiliser les victimes.
Le harcèlement est intolérable, écrit Martin sur la page Facebook RTL, les auditeurs à la parole. Mais attention à ne pas faire de Mila une héroïne. Pour d'hommes, du sursis ne devrait jamais exister. Les auteurs ne prendront pas conscience de la gravité de leurs actes. Et une victoire pour la liberté d'expression, conclut Fred.
Nous sommes avec Foued, bonjour, qui nous appelle régulièrement de Strasbourg, qui est enseignant. Bonjour,
oui,
Foued,
bonjour.
Votre avis sur, ces peines, 4 à 6 mois de prison avec sursis prononcé dans l'affaire donc de Mila. Et vous l'avez écouté à l'instant, on a gagné, on gagnera encore. Un autre prévenu a bénéficié d'un vice de procédure et un dernier a été relaxé faute de preuves. Mais 11 jeunes gens ont été jugés, donc ont été condamnés.
Oui, ben je trouve moi la décision assez sensée et assez équilibrée. Déjà parce qu'elle marque un tournant, j'espère, pour les personnes qui doivent apprendre et prendre conscience que finalement, écrire sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences, parce que souvent, ils ont l'impression que écrire sur Internet, c'est comme si c'était quelque chose d'un peu magique, qui ne prêtait pas conséquences, qui ne provoquait rien chez les personnes qui lisaient. Donc là, on sait maintenant qu'on peut retrouver les personnes, on peut remonter. Mais je trouve que c'est aussi mesuré, dans la mesure où la prison avec sursis, vu le profil des prévenus, ça me semble équilibré, dans la mesure où moi j'ai l'impression qu'on n'avait pas affaire à des bombes à retardement qui pouvaient éventuellement passer à l'acte. Je pense que on a affaire à des gens qui ne mesuraient pas nécessairement la conséquence de leurs actes, parce que je pense culturellement en France, vraiment les gens ont l'impression que écrire un tweet ou écrire un message sur Facebook, même s'il peut être assez violent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, ça a moins d'impact que ce qui s'est fait de visu dans la vraie vie. Je suis même persuadé que les personnes ne tiendraient jamais ce genre de propos à l'oral, en face à face.
C'est possible. Alors Fouette, vous habitez Strasbourg, et là, par le plus grand des hasards, nous avons Théo également qui habite Strasbourg, qui est étudiant en droit et qui voulait, pourquoi pas, entamer la conversation avec vous, parce qu'il n'est pas tout à fait sur votre position. Bonjour Théo.
Bonjour Pascal, vous m'entendez bien, ça va bien ?
Je vous entends, vous pouvez répondre à Foued que vous venez d'entendre à l'instant.
Eh bien, déjà, j'aimerais souligner quelque chose, c'est que évidemment, on nous présente ça comme une victoire, sauf que la jeune Mila a reçu des dizaines de milliers de menaces, que ce soit de mort, de viol, de violence, et qu'il y a eu 13 prévenus sur des dizaines de milliers. On nous présente ça comme une victoire. Bon, il y a eu un vice de procédure. Bon, ça, c'est normal. Quand on a un code de procédure pénale qui est aussi épais que le code pénal, c'est quelque chose de naturel maintenant, hein. Et il y a eu un acquitté. Bon, les juges ont décidé qu'il n'y avait pas, enfin, il n'était pas coupable. Et sur les 11 autres, il y a eu des peines entre 4 et 6 mois, il me semble, de prison avec sursis. Et c'est, si vous voulez, c'est des peines dans le code pénal qui valent 3 ans de prison ferme, enfin 3 ans de prison, entre guillemets, pas ferme, mais 3 ans de prison. Donc on voit encore une fois que les juges n'appliquent pas le code pénal. Le code pénal, si vous voulez, c'est décidé par des législateurs qui sont élus par le peuple, hein, les députés. Et donc on voit que le juge qui devrait être la bouche de la loi, encore une fois, n'applique pas le code pénal. Et je suis assez attristé que de la part d'un prof, j'ai encore le drame de Samuel Paty en tête, hein, qu'un prof trouve ça normal, hein, que dans
vous parlez de Fouette là à l'instant.
Oui,
est enseignant, oui.
Oui, justement, qu'un professeur trouve ça, après ce qu'on a vécu avec Samuel Paty, trouve qu'il est normal de condamner 4 mois avec sursis des gens.
La Fouette peut vous répondre.
Des menaces de mort.
C'est un grand classique, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'analogie dissymétrique. C'est-à-dire, je vois pas le rapport entre une demoiselle qui a été harcelée et un pauvre collègue à moi qui s'est fait couper la tête dans la rue. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'on fasse une analogie.
Vous voyez pas le rapport?
Je vois pas le rapport parce que c'est comme. Et par contre, laissez-moi terminer. Je vois le propos là sur le fond du propos de Théo. Ce qui nous explique, c'est que dans la loi, ce qui est préconisé, c'est 3 ans. Et si les gens qui s'intéressent un tout petit peu au droit, j'imagine que lui, c'est le cas, il y a la loi telle qu'elle est écrite et la loi telle qu'elle est appliquée. C'est-à-dire la loi, quand elle est telle qu'elle est appliquée, elle est contextualisée, c'est-à-dire qu'on prend en compte la personnalité des gens, les antécédents, le contexte dans lequel les choses ont été faites. Et lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas d'antécédent et qui ne mesurait pas visiblement les conséquences, on fait la peine qui est proportionnée. Voilà. Après... libre à lui, juste qu'on vienne pas me parler de Samuel Paty alors que il n'y a aucun lien entre les deux
Théo
histoires.
Théo et Foued. J'ai compris, Foued. Théo. J'ai compris. Théo et Foued. On marque une pause et on revient tout de suite. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, commence sa communication traditionnelle hebdomadaire du mercredi. Y aura-t-il de nouvelles restrictions? Que va-t-il dire? Franchement, on va écouter ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis, on apprend depuis quelques heures, et ça ressemble vraiment à une histoire sans fin, qu'après le variant Delta, on apprend que les autorités surveillent désormais le variant Lambda, qui serait particulièrement contagieux. Le variant Lambda, aussi appelé C37, a été classé dans la catégorie à suivre par l'Organisation mondiale de la santé. Et selon l'institution internationale, il a été repéré depuis un an et il est au Pérou aujourd'hui assez virulent puisqu'il représente 80% des nouveaux cas. Donc c'est l'OMS qui communique ce matin un nouveau variant, le variant Lambda. C'est sans fin. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal
Laurent Tessier.
Vous pouvez nous appeler pour parler de Disneyland Paris qui a présenté des excuses. Hier, deux agents de sécurité avaient demandé à une mère de famille d'arrêter d'allaiter en public. On est à côté de l'attraction Space Mountain.
D'accord, dis-moi pourquoi je ne peux pas allaiter ici.
C'est le régime.
Je peux allaiter où je veux, quand je veux. Ça, c'est mon bébé, elle a besoin de manger.
Marie, témoin de la scène, publie alors une photo sur Twitter. Écoutez sa réaction recueillie par Gauthier de Lombugard.
Deux agents de sécurité étaient en train de lui dire que le règlement intérieur stipulait que les femmes allaitantes devaient aller allaiter au Baby Care Center et pas dans l'espace public. Donc leurs arguments, c'était qu'il fallait protéger la clientèle étrangère qui pouvait être choquée.
Il n'y a aucune restriction sur l'allaitement à Disneyland Paris, a déclaré le parc sur Twitter. La demande qui a été faite à cette maman n'est pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs. Une affaire qui a fait réagir la ministre Marlène Schiappa. Allaiter un bébé n'est pas un délit. Vous pouvez réagir dès maintenant au 3210 3210.
Merci Laurent. Fouette et Théo, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, j'allais dire, pour votre défense, Théo ou Fouette?
Pour répondre à Fouette...
C'est Théo.
C'est Théo. Pour répondre à Fouette sur le premier argument, qu'effectivement il y a la loi comme elle est dit dans le code pénal et comme elle est appliquée, mais ça c'est un sujet politique. Je rappelle que Montesquieu disait que le juge devait être la bouche de la loi, seulement sans l'interpréter, qui devait juste l'appliquer. Donc c'est une vision politique des choses, hein. c'est pas ancré. C'est pareil pour ce qui est l'individualisation des peines, c'est aussi une mesure politique qui peut être changée très rapidement en fonction des différentes politiques en place. D'ailleurs, c'est ce que demandent les policiers, demandaient la fin justement de cette mesure-là pour permettre des peines minimales. Et ensuite sur la deuxième chose, je suis assez amusé de voir que justement un professeur ne voit pas la différence et ne fait pas le lien entre un professeur qui s'est fait harceler 2 semaines par des islamistes parce qu'il avait montré des caricatures et une jeune fille qui s'est fait harceler pendant 1 an et demi parce qu'elle avait insulté l'islam. Je suis assez amusé de voir que Fouette ne fait pas le lien entre les deux. Peut-être que, évidemment, comme disait un autre professeur de philosophie, qui a un bon laïcard et qui est un laïcard mort, peut-être que s'il arrivait quelque chose à Mila, ce que je ne souhaite pas évidemment et ce que personne ne souhaite, je l'espère, les discours changeraient, ou je sais pas, mais en tout cas, je suis assez désespéré.
Fouette, vous répondez très rapidement, Théo. Fouette, je suis obligé de couper la parole à chaque fois parce que, en fait, si je ne vous coupe pas la parole, vous arrêtez pas tout seul.
Théo.
Mais pardonnez-moi parce que j'ai toujours l'impression d'être un peu mal élevé, mais en même temps, je suis obligé dans un rôle. Franchement, je le fais pas de gaieté de cœur. Fouette est synthétique. Fouette.
Alors, de manière très synthétique, je ne pense pas qu'on arrive à trouver un équilibre dans notre société actuelle où on essaie justement d'avoir des choses apaisées en ayant des interlocuteurs qui ont des avis comme ça très tranchés sans aucune nuance. Point barre.
Ah, vous êtes un peu sévère avec Théo quand même.
Oh non, je ne suis pas sévère. Moi, je pense justement, je mettais en avant justement la nuance qui était mise dans le jugement et cette nuance, lui,
non,
là,
mais c'est vrai que tout. Mais non, mais on peut imaginer qu'il y ait un point de passerelle entre Samuel Paty qui est assassiné et une jeune fille qui est cyberharcelée. Il y a une différence peut-être de degré. Mais au fond, il n'y a pas une différence de nature. C'est à chaque fois des attaques très fortes qui sont exercées pour des raisons précises. Alors évidemment, il y a des différences de degré. Cyberharceler quelqu'un, ce n'est pas l'assassiner, bien sûr.
Bah oui. Et moi, personnellement, quand je suis coincé dans une discussion, je ne fais pas d'analogie outrancière.
J'apporte des arguments. J'apporte des arguments, c'est-à-dire que c'est dans les deux cas des personnes qui ont voulu s'exprimer librement et qui, parce qu'elles se sont exprimées librement, l'une a été cyberharcelée et l'autre, hélas, s'est fait tuer.
Oui, donc on est bien d'accord qu'il y a une dissymétrie dans l'analogie.
Une dissymétrie, je répète ma phrase, il y a une différence de degré. Est-ce qu'il y a une différence de nature ? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Merci en tout cas Fouad et Théo pour cet échange. On change de sujet.
Merci à vous, Pascal.
Je vous en prie, nous parlons de Disney. Et vous êtes au courant effectivement de cette jeune femme qui était en train d'allaiter à Disney. Et des officiers de la sécurité privée de Disney lui ont demandé de ne pas allaiter dans les allées de Disney. Et puis finalement, Disney a émis ses excuses. Nous sommes avec Victoire. Bonjour Victoire, qui est étudiante à Aix-en-Provence.
Bonjour Pascal.
Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Je trouve ça un peu ridicule d'avoir réprimandé cette femme en train d'allaiter son enfant, tout simplement.
Je suis assez d'accord avec vous. En fait, je pense qu'il n'y a même pas de débat, que tout le monde va être d'accord avec ça. C'était des employés qui avaient demandé à cette femme d'arrêter. Il n'y a aucune restriction sur l'allaitement à Disneyland Paris, a déclaré le parc. Et allaiter un bébé n'est pas un délit, avait réagi la ministre Marlène Schiappa. Victoire ?
Oui, je suis totalement d'accord avec Marlène Schiappa. Ce n'est pas un délit aujourd'hui, c'est surtout un besoin pour l'enfant de manger. En plus, si la femme souhaite allaiter, c'est quelque chose d'assez intime, certes, mais si l'enfant ressent le besoin de manger et de se nourrir, et que la femme qui attendait donc son mari et son autre enfant qui est en train de faire un manège, tant que la femme ne s'exhibe pas non plus, et qu'il n'y a rien de très choquant, et si elle se met comme elle a fait sur le banc de côté, que elle a nourri son enfant, je pense pas que ce soit un délit, que ce soit choquant. Et la clientèle étrangère doit connaître elle-même du monde qui allait autour d'elle. Donc je pense pas que c'est vraiment faire un débat là où en fait il devrait pas en avoir un.
Un internaute s'était ému dimanche sur Twitter, photo à l'appui, que des agents de sécurité aient empêché une maman d'allaiter son bébé de 2 mois au motif que cela choquait la clientèle étrangère. Et Disney a répondu hier, nous regrettons profondément cette situation et présentons de nouveau nos sincères excuses à la maman concernée. La demande qui lui a été faite n'est pas en phase avec notre règlement intérieur et nos valeurs, a indiqué Disneyland sur le compte Twitter. On voit bien d'ailleurs l'importance des réseaux sociaux, c'est des nouvelles évidemment que personne n'aurait eu il y a 20 ans ou même il y a 10 ans. Avant que Twitter existe, mais aujourd'hui Twitter, et ça c'est parfois le bon côté d'ailleurs de Twitter, c'est pour ça qu'il faut garder Twitter, mais peut-être lever l'anonymat, parce qu'il y a des informations auxquelles on a accès, auxquelles on n'avait peut-être pas accès avant. Merci Victoire, vous êtes en vacances ?
Oui, en vacances, exactement.
Pourquoi vous riez ?
Parce que je vais travailler bientôt tout le mois d'août, mais là je profite un peu.
Bon, qu'est-ce que vous allez faire ?
Je vais travailler à la piscine.
Pour gagner un peu d'argent ?
Exactement.
Qu'est-ce que vous allez faire à la piscine ?
Je vais être à la caisse pour passer les tickets et en attendant les résultats de ma fac pour l'an prochain.
Eh bien, je vous félicite de travailler étudiant. Franchement, c'est une bonne idée. On a tous fait ça. Ça apprend. On a un premier pas avec le travail. Ça apprend un peu de discipline. C'est pas facile quand on a 19 ans en plus parce que, on découvre le milieu professionnel. Donc, je vous félicite, Victoire. Bravo.
Merci beaucoup.
Bon, et bonnes vacances d'ici là. J'ai une petite chanson pour vous qui nous rappelle ce qui s'est passé à Disney.
Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la coucoute à son chat, tous les gars du village, tout est là. Et Margot était simple et très sage.
La pause.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
RTL, Tour de France 2021.
Et nous allons retrouver dans une seconde Nicolas Georgerot, Louison Bobet en 55, Charlie Gaulle en 58, Raymond Poulidor, Eddy Merckx, Jean-François Bernard, Marco Pantani, Richard Virenque ou Chris Froome. Tous ont été couronnés au sommet du Mont Chauve, le Mont Ventoux, où vous êtes en ce moment, cher Nicolas Georgerot.
Oui, bonjour.
Je vous ai étonné là.
Non, mais c'est vrai, vous avez rappelé ce palmarès, ce très beau palmarès au sommet du Ventoux. Mais avec cette particularité aujourd'hui, cette arrivée sera vraiment en descente au pied du Ventoux à Malocène. Et il y aura au total 2 ascensions, 2 descentes. Ça fait donc 44 kilomètres de descente cumulée. Pour l'instant, on a dans cette 11e étape entre Sorgues et Malocène, 4 groupes différents, cher Pascal, avec en tête notamment 3 Français dans un groupe de 4, Alaphilippe, Pérez, Roland et donc un Irlandais, Dan Martin. Il y a un groupe de 8 qui est intercalé, un groupe de 5 un petit peu plus loin. Le peloton est à 1 minute 30 environ. Et c'est vrai que vous évoquiez le Ventoux. Bien, quand on regarde à gauche, à droite, au gré des virages et au gré du tracé et du parcours, on voit l'observatoire, on voit le sommet du Ventoux et les coureurs eh bien, aperçoivent ce Ventoux. Ils vont monter tout à l'heure. Ce sera la quatrième et cinquième ascension de la journée.
Et j'entendais ce matin, je ne sais pas si c'est vous qui aviez interrogé ces anciens cyclistes sur l'antenne d'RTL, de ceux qui ont fait le Ventoux et qui en parlaient. C'était formidable parce que quand on croit qu'on est arrivé, en fait, il en reste encore et on finit à une pente à combien 10%, c'est ça?
Oui, 10%, c'est vrai que ce qui frappe et le Ventoux ne laisse jamais insensible, c'est d'abord le côté de la forêt, c'est-à-dire un côté très abrité avec une pente assez forte. Et puis ensuite, après Chalais-Reynard, eh bien, il reste 6 km où là, on est plus à l'abri avec le vent de face très souvent. Et puis ce sol très minéral, très blanc, à chaque fois, on le compare un petit peu au sol de la Lune, bien qu'il y a quand même très peu de personnes qui sont allées sur la Lune pour comparer, mais avec ses cailloux et ses roches et aussi toutes ces espèces protégées qu'il y a sur le Mont Ventoux parce que c'est un espace très protégé. Voilà.
Bon, vous êtes sur une moto. L'année prochaine, la direction d'RTL a décidé que vous feriez le tour, mais sur un vélo pour être à égalité avec les coureurs. Cher
vous viendrez avec moi.
sur votre porte-bagages.
Partez tout de suite.
Bon, Laurent Tessier, on va parler de l'hymne italien, bien sûr, tout à l'heure. Hein. Ça, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder.
Eh ben, on pourra tout à fait en parler dans quelques instants, mais on va quand même changer d'ambiance avec ces questions. Faut-il s'inquiéter du variant Delta? Notre été va-t-il être gâché? Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, vient de s'exprimer à l'instant sur la situation sanitaire.
Le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse, une augmentation de plus de 20% en 7 jours. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas détectés pour 100 000 habitants, a augmenté de 21%. Chez les 20-29 ans, le taux d'incidence a pratiquement doublé en une semaine. Cette situation est liée en France, comme dans le reste du monde, au variant Delta, qui est beaucoup plus agressif que les variants précédents et qui continue sa progression. Il concerne et représente aujourd'hui plus de 40% des contaminations dans notre pays. En conséquence, 11 régions voient leur taux d'incidence augmenter. Les signaux d'alerte se multiplient et nous pourrions suivre la même trajectoire que certains de nos voisins. Les indicateurs hospitalier continue de s'améliorer. Nous allons probablement passer sous la barre des 1000 patients en réanimation, mais le risque d'une quatrième vague rapide est là. Et nous travaillons à tous les scénarios possibles. Et en ce sens, un conseil de défense se tiendra lundi prochain.
Le gouvernement appelle à la vaccination massive face, vous l'avez entendu, au risque d'une quatrième vague rapide.
J'imagine ceux qui sont en train de préparer leurs vacances. En ce moment, on est le 7 juillet. Les gens partent généralement en vacances fin juillet. Souvent.
Certains partent mi-juillet aussi.
Mais il est possible que les vacances soient gâchées, voire contrariées, voire annulées. Parce que qu'est-ce qui peut se passer si ça commence, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, si les mesures ou les restrictions sont importantes. J'ai pas envie d'affoler les foules, mais je suis quand même un peu inquiet. Evelyne, bonjour. Je suis inquiet parce que je sais ce qui se passe depuis un an et je sais les mesures, comment elles nous tombent parfois dessus. Evelyne.
Bonjour, monsieur Pro.
Bonjour, vous vouliez parler de Disney.
Ah, écoutez, qu'est-ce que c'est encore que cette polémique? Non, mais écoutez, franchement, ça ne va pas leur faire de la publicité. Hein.
Bah, ils se sont excusés.
Je trouve, oui, mais enfin, bon, écoutez, on ne fait pas venir des agents de service pour dire « Non, mais madame, vous arrêtez d'allaiter votre enfant quand même. »
Je pense que c'est les agents de service qui ont pris ça sur eux, si j'ose dire. C'est une initiative malheureuse.
Enfin, bon, il faut avoir un minimum d'intelligence quand même. C'est normal de nourrir son enfant.
J'ai
nourri
mes
trois, j'ai allaité. Et il y avait des endroits, effectivement, j'étais pas chez moi. Hein, c'était pas propice pour donner le lait, mais comme le bébé pleurait, mon bébé
Moi, ce qui m'ennuie, c'est la raison pour laquelle on a fait ça. C'est-à-dire, c'est pour la clientèle étrangère.
Je voudrais bien savoir lesquelles.
Ça m'intéresse vraiment de savoir. La raison qui a été donnée me paraît pire presque que le fait en lui-même. Donc, mais je n'ai pas de détails là-dessus, c'est ce qu'a communiqué simplement.
Les Nordiques, que ce soit les Danois, Suédois et tout, c'est tout à fait normal de donner le sein dans la rue.
Je suis d'accord.
Il n'y a aucun souci là-dessus. Non, voilà, faut toujours polémiquer sur pour des sujets comme ça. Bientôt, c'est bien sûr se rattraper aux branches en disant excusez-nous, on voulait pas. Non, fallait pas le faire. Voilà.
Bah oui, mais là pour le coup, la direction n'est pas toujours responsable de ce que peuvent faire par définition ses salariés, surtout que ça ne correspondait pas au règlement intérieur. Je vous dis, c'est une initiative personnelle bien de sûr, deux employés absolument. Qui peuvent se tromper.
Absolument. Alors dans ce cas-là, on n'a qu'à marquer interdit ça, interdit donner le sein, interdit. Et puis quoi encore ? Mais quel monde on vit actuellement ? Quel monde on vit ? Je suis dégoûtée, quoi.
Bah, le monde, il n'a pas été terrible tout le temps, quand même. Hein. Vous savez, Evelyne, oui, de quelque côté qu'on se tourne.
Les femmes, on était cinq enfants. Ma mère, elle a nourri les cinq enfants.
Oui.
Voilà. Et il y avait
non, mais quand on dit, je suis premier à le dire, parfois c'était mieux avant. Où j'ai le sentiment qu'il y a eu un âge d'or. Dites ça aux gens qui sont morts entre 14 et 18, dites ça aux gens qui ont fait la guerre de 40, dites oui. ça aux jeunes qui sont partis en Algérie dans les années 50, vous voyez.
Bien sûr, oui. Ok, mais enfin bon, on
toute
fait
période
des polémiques pour un non. Puis alors, c'est vrai que les réseaux, en plus... Moi, j'ai vu ça, en fait, en ouvrant mon Facebook, j'ai vu cette polémique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore Mais qu'est-ce que c'est que ça encore?
Je suis d'accord avec vous. Mais c'est une polémique, c'est un buzz chasse l'autre, c'est une mini polémique, mais qui en dit quand même, qui révèle quelque chose de notre société. Nathalie, là-dessus, sera peut-être notre dernière auditrice. Nathalie qui habite Grenoble et qui est assistante maternelle, précisément.
Oui.
Donc, qu'en pensez-vous, Nathalie ? Bonjour.
Bah, je suis sur le même avis que vous, c'est-à-dire qu'en 2021, être choquée d'un geste le plus naturel au monde, effectivement, il ne devrait pas y avoir de polémique. Pour moi, la polémique, elle est plus sur... Cette polémique, elle a lieu dans une entreprise, une multinationale américaine. Et du coup, ça me pose la question, est-ce que... Parce que le fait de c'est un geste isolé des agents, je vous cache pas que ça me surprendrait un peu, parce que quand on connaît les conditions de travail à Disneyland Paris, je veux dire, le personnel est très briefé sur faire ou ne pas faire aux visiteurs des choses. Enfin, les conditions de travail sont très strictes, hein, ils ont des contrats très stricts, ils se permettent quand même pas tant de liberté que ça. Donc moi, je m'interroge plus sur est-ce qu'il y a une volonté de Disneyland Paris, qui est quand même une société américaine, d'établir plutôt leur code américain.
Bah, il n'y a aucune restriction sur l'allaitement à Disneyland Paris dans le règlement intérieur. C'est facile à vérifier, ça. Vous savez, si c'était
Pense que si les employés ont fait une largesse, de toute façon, ils n'y travailleront plus. Parce que vu comment sont respectés les contrats de travail à Disneyland, ça veut dire que de toute façon, je pense qu'il va y avoir une mise à pied. Enfin, c'est pas possible. Mais voilà, je suis plus dans le doute quand même de est-ce que derrière, il n'y a quand même pas... parce qu'on sait quand même que la société américaine, elle est puritaniste sur certains points, plus que d'autres. Et voilà, moi, c'est là-dessus que je me pose la question quand même. Parce que franchement, d'un point de vue sociétal, je pense que ça ne se choque personne dans la société qu'une femme allaite. Personne. Mais pourquoi ça arrive à Disneyland ?
Non, mais moi, je suis comme vous, je me suis posé les mêmes questions. Je ne sais pas si on peut avoir d'ailleurs un représentant ou pas de Disneyland à la communication, mais en tout cas, la réaction de Disneyland a été parfaite, pour le coup. La réaction de la direction est sans ambiguïté. Ça ne correspond pas à nos valeurs, ce n'est pas dans le règlement intérieur, donc il n'y a aucune ambiguïté. Merci beaucoup Nathalie et Evelyne, mais c'est un sujet qui fait réagir parce que Paulette veut également en parler, donc on écoutera Paulette. Je disais que Nathalie serait la dernière auditrice, mais non, Paulette est là. Je précise quand même que réécouter quelques notes de musique. C'est le mythique Fratelli d'Italia de la Nazionale, et on est un peu des Italiens. Nous, les Français, vous savez que c'est Cocteau qui disait les Italiens sont des Français de bonne humeur, disait-il. Mais c'est vrai, c'est une jolie phrase. Et c'est vrai qu'hier soir, je ne sais pas si vous avez regardé, mais mon cœur était du côté italien. Pourquoi, lorsqu'on est Français, on se sent peut-être plus proche de l'Italie que de l'Espagne ? J'ai le sentiment, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde. Mais j'adore ces gens, la manière dont ils jouent, la qualité technique. Le match était formidable, il y a une intensité. Puis c'était l'Italie qui se bat, qui défend, c'était un peu contre le cours du jeu. Mais c'était un match magnifique. Et puis cette ferveur de patriotique, ça m'a touché. Donc j'avais envie d'avoir votre sentiment. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal
Laurent, vous pouvez nous appeler pour parler du Tour de France. La domination écrasante du maillot jaune Pogacar sème-t-elle le doute? Sa supériorité a relancé les soupçons de dopage. Je ne sais que faire pour prouver mon innocence, a déclaré le coureur cycliste avant la double ascension du Mont Ventoux. Avez-vous des doutes? 32-10. Et puis l'Italie, vous l'avez dit Pascal, est en finale de l'Euro. Une qualification obtenue au tir au but aux dépens de l'Espagne. L'occasion de lancer votre playlist des plus belles chansons italiennes.
Ça, c'est une bonne idée. Ah, ça, on va faire un spécial Italie.
C'est bon. Y a Tiamo aussi, qu'on pourra.
Bien sûr. Et quels sont les Italiens les plus célèbres de France?
Umberto Tozzi?
Non. Les Italiens, par exemple, Carla Bruni est italienne. C'est une des Italiennes les plus célèbres de France, forcément. Donc, il y a d'autres.
Il y a Valeria Bruni Tedeschi, du coup.
Qui est sa sœur, oui. Alors, Adamo, il est à la fois belge et italien. Mais ça va être intéressant, les Italiens les plus célèbres de France. Non, c'était Paulette. J'avais annoncé Paulette. Bonjour, oui. Paulette.
Bonjour, Pascal.
Merci d'être avec nous.
Ben oui, ben ça m'arrive souvent.
Comment dire? Je ne vous entends pas là, Paulette.
Ça m'arrive souvent.
Ah ben écoutez, j'en suis heureux pour vous. Que voulez-vous nous dire sur... Ça vous a choqué l'attitude
des... L'histoire de Disneyland, c'est à tomber par terre.
Oui, mais vous êtes loin là. Comment ça se fait que vous parlez? Vous parlez loin du poste?
Parce que j'ai un smartphone, que c'est tout nouveau et que je ne sais pas encore bien m'en servir.
Ah ben alors, ça c'est compliqué. Vous parlez loin du petit comment ça s'appelle non pas l'interrupteur, mais du... J'y arrive pas. Bon, faut se rapprocher. Faut rapprocher peut-être...
Du combiné.
Allô
Paulette?
Ah oui, non. Allô? Oui, Paulette, je ne vous entends plus, Paulette, vous savez.
Allô?
Oui, Paulette.
Arrêtez.
Vous êtes... Je suis toujours là.
Ben vous avez, oui, mais est-ce que vous pouvez rapprocher peut-être la bouche de votre combiné? Je cherchais le mot, un autre mot, mais je ne l'ai pas trouvé.
Est-ce que vous m'entendez mieux, Pascal?
Bon, on va le faire comme ça, Paulette.
Oh ben, il est 14h30, à demain.
On va le faire comme ça. Quel est votre sentiment sur Disney?
Bon. Eh ben, écoutez, je trouve que les agents de sécurité, ils n'ont pas peur de...
Bon, Paulette, on va essayer de sécuriser la ligne, comme on dit dans ces cas-là. Et nous sommes avec Jean-Claude, qui est ancien infirmier en Maine-et-Loire. Bonjour Jean-Claude.
Et bonjour.
Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence, Jean-Claude?
Eh bien, je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est l'allaitement à la plage, c'est l'allaitement à la gare, c'est l'allaitement à la... Enfin, n'importe où. À chaque fois, c'est le même discours. Cacher ce sein que je ne saurais voir.
Eh oui, vous avez parfaitement raison. Mais conclusion vous en tirez?
Eh ben moi, ce qui me gêne, c'est l'hypocrisie de la réponse de Marlène Schiappa. L'allaitement n'est pas interdit. Ben, je suis pas d'accord. L'allaitement est autorisé. C'est pas pareil.
Oui.
Faudrait peut-être une loi pour dire une bonne fois pour toutes, y a le droit d'allaiter en public.
Ah non, pitié, on va pas faire des lois pour tout.
Ben oui, mais on a une absence de loi qui fait que c'est... Mais ça arrive tout le temps, quoi.
Cher Disneyland Paris, a écrit Marlène Schiappa, allaiter un bébé n'est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées, c'est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim. Et elle a écrit ça sur Twitter, la ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa.
Oui, mais j'aimerais que ce soit dit de manière plus énergique, si vous voulez.
Je suis d'accord avec vous, mais...
Que ça s'arrête, c'est tout.
Mais vous avez... Vous avez connaissance d'autres faits de ce type?
Bah, écoutez, j'ai pas connaissance comme ça de manière précise, mais les histoires d'allaitement, ça sort à la radio régulièrement quand même. Un coup c'est à la gare, un coup c'est dans le jardin public, un coup c'est ailleurs. C'est loin d'être une exception quand même.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont choqués pour tout?
Ben, il y a des gens qui sont choqués pour tout parce qu'on en revient à cacher ce sein.
Cacher ce sein que je ne saurais voir.
Ouais, c'est...
Je me demande si c'est même pas couvré, voilà, ce sein que je ne saurais voir dans Tartuffe.
Je ne saurais vous dire.
Et c'est Orgon qui dit ça, je pense, couvré ce sein. On va vérifier. Vous savez qu'avec Google, on peut tout vérifier en 5 secondes.
Mais le fond du souci, il est là. Et il est vrai que les Américains sont particulièrement sensibles sur ce fait.
Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les hommes sont blessés. Cela fait venir de coupables pensées. C'est la tirade de Tartuffe de Molière qui dénonce l'hypocrisie puritaine.
Oui, on en est des siècles après, on en est toujours au même point.
Mais vous avez raison, et c'est pour ça que d'ailleurs Guitry disait quoi de neuf, Molière. Mais c'est vrai que quand vous lisez Molière, que ce soit Tartuffe, Les Femmes Savantes, Les Précieuses Ridicules, Le Misanthrope, Don Juan, c'est une tarte à la crème de parler de modernité, mais tout est là. Les Femmes Savantes, c'est formidable. Les Précieuses Ridicules, c'est formidable. Le Bourgeois Gentilhomme qui fait un malheur à la comédie française, c'est absolument formidable, Le Bourgeois Gentilhomme. Mais c'est une représentation d'ailleurs qui est assez exceptionnelle. Hein, si vous avez l'occasion d'aller, c'est complet, hélas. Mais c'est une représentation avec ce comédien qui s'appelle Christian Heck, qui est absolument fabuleux, qui est belge. Donc quoi de neuf, Molière? Guitry avait raison.
Si c'est complet, il n'y a aucune raison d'avoir l'occasion d'y aller, du coup.
Parfois, je dis des bêtises. Et alors, au moment où je l'ai dit, je me rends compte que j'ai dit une bêtise. Et c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes mon Gemini ou Gemini Cricket?
Gemini Cricket.
Gemini Cricket. Vous êtes ma conscience, ami.
Oh là là.
Vous êtes ma conscience.
C'est un rôle lourd à porter.
Non, mais j'entends bien. Donc je dis une bêtise, hop, vous êtes là pour rectifier. Formidable. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le Fratelli d'Italia est lié à l'histoire politique du pays. Il a été composé en 1847 et l'hymne a contribué à unir le peuple italien pendant sa guerre d'indépendance, notamment face à l'Empire austro-hongrois. Pendant près de 20 ans, le Risorgimento permettra à l'Italie actuelle d'être façonnée et regroupée. Vous savez que l'histoire italienne est très différente de la France parce que c'est un pays assez jeune. Au fond, l'Italie, c'est la fin du 19e siècle. Alors cet hymne, je trouve que c'est une des séquences de cet euro. La manière dont il est vécu, interprété par les Italiens, je voulais peut-être que nous en parlions. Nous sommes avec Jean-François qui habite Orléans. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Comment allez-vous?
Écoutez, ça va.
Écoutez, ça, vous le dites pas forcément avec le plus grand des enthousiasmes, mais...
Si, ça va très bien. Pour une fois que je peux m'exprimer sur RTL, ça va.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai appelé plusieurs fois pour divers sujets, mais vous êtes tellement encombré que vous pouvez pas répondre à tout le monde.
Ah oui, ça c'est dommage. Effectivement, c'est la première fois que vous...
Vous avez 24 heures d'émission.
C'est la première fois que vous nous appelez? Quoique vous allez passer à l'antenne?
J'ai appelé des centaines de fois.
Et c'est la première fois que vous passez?
Voilà, c'est la première fois.
Ça, c'est pas juste. Persévérance.
C'est normal, on peut pas distribuer à tout le monde. Hein.
Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire, cet hymne italien?
Moi, j'ai trouvé ça formidable, parce que les joueurs chantent avec leur cœur, ils chantent avec le respect de leur pays, et puis que comparé à l'équipe de France qui murmure des paroles alors qu'ils ne chantent pas, c'est... Voilà, c'est ça, ça m'a plu hier, parce que c'est vraiment... Ils chantent avec enthousiasme, les joueurs de la Squadra.
C'est vrai, c'est tout à fait étonnant, et c'est émouvant, je ne sais pas si vous partagez cette émotion, mais moi, ça me donne le frisson.
Moi aussi, ça me donne le frisson, parce qu'ils chantent avec leur cœur pour leur pays, voilà.
Et puis cet hymne est superbe.
Oui,
l'hymne,
mais
le Fratelli d'Italia.
Mais non, notre hymne, il est peut-être plus guerrier, mais il est beau, notre hymne.
Bon. Oui, mais il est beau, mais il n'est pas chanté forcément par tous nos joueurs. Mais il ne l'a pas été toujours non plus dans l'histoire, disons-le. Hein.
Oui. Mais quand même, la France, c'est un beau pays, vous savez. Hein. Vous avez sûrement voyagé plus que moi. Je suis ancien conducteur routier, j'ai été dans 13 pays. Croyez-moi, vous le savez mieux que moi, on habite quand même un beau pays.
Je suis d'accord. Vous habitez Orléans?
Oui.
Depuis toujours, peut-être?
Oui, je suis né à Orléans.
Et vous préparez vos vacances, Jean-François?
Non, oui, final, je vais peut-être partir en Bretagne suivant l'évolution de la Covid. Et puis voilà quoi.
Vous êtes vacciné?
Oui. Bon. J'ai eu mes deux vaccins. Et
donc, vous êtes protégé.
Je suis content d'avoir mes deux vaccins.
Bon. Et quand vous allez en Bretagne, vous allez où, Jean-François?
Bon, j'irai peut-être à Perros-Guirec.
Ah, bah, c'est magnifique!
Oui, oui, la Bretagne, c'est joli. Hein.
C'est la Bretagne historique, la Perros.
Oui, 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 c'est le ce pays du granit rose.
Exactement, la côte du granit rose.
Voilà.
Perros-Guirec, c'est juste après Lamballe, Guingamp.
Oui, oui, oui.
Bon, bah, écoutez, merci. Jean-François, c'était sympa pour une première.
Comment?
Je dis, c'était sympa pour une première de vous avoir.
Oui, bah, moi aussi, et vous qui connaissez le football mieux que moi, j'ai toujours la nostalgie de l'équipe des Verts de 76.
Bah, oui, ce qu'on aimait dans cette équipe, c'était l'union sacrée qui existait autour de cette équipe. Et il y avait une forme de naïveté à l'époque et de, comment dire, de fraîcheur que nous avons peut-être perdu, disons-le.
Ouais, mais c'était une équipe qui était soudée.
Je suis d'accord, et cette fraîcheur de ces années-là, parfois, souvent, on l'évoque à l'antenne. Il ne faut pas toujours regarder dans le passé, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui nous plaisait, et dans le Tour de France également, d'ailleurs, dans cette période-là.
Le Tour de France, enfin, il y a beaucoup de choses. Vous savez, moi, j'ai toujours aimé le sport, et c'est vrai qu'on a quand même, en France, on a quand même des bons éléments. Voilà.
Qui sait les plus forts, évidemment. Ah, ça, c'est toute notre jeunesse. Vous chantez
ça. Ah oui, ça, c'était ma jeunesse, oui, c'est vrai.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup.
Je vous remercie. Bon après-midi. C'est gentil. À bientôt.
Rappelez-nous, parce que vous êtes sympathique, Jean-François.
Je vous remercie, vous aussi. Bah, allez, bon écoutez, après-midi.
Puis vous avez dit que je connaissais bien le football, donc je suis content parce que tout le monde ne pense pas ça.
Bah, voilà.
Je vous embrasse, allez, si j'ose
bon
dire. Bon après-midi à vous. Les infos dans une seconde.
Merci.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT.
Il est 14h01. Le flash avec Pierre Collat.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le retournement de tendance se confirme. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. On parle des cas de Covid-19. Les indicateurs repartent à la hausse dans plusieurs régions, dont l'Île-de-France. Le gouvernement qui encourage encore une fois à se faire vacciner. C'est la carte maîtresse pour faire face au risque d'une quatrième vague rapide. Fin de citation. Le président haïtien assassiné tôt ce matin, Jovenel Moïse a subi l'attaque d'un commando chez lui, dans sa résidence de président de la République à Port-au-Prince. Il était président d'Haïti depuis 2017. Le verdict du procès Mila est tombé dans la matinée. 11 condamnations, 4 à 6 mois de prison avec sursis. Les cyberharceleurs de Mila devront aussi verser 1 500 € au titre de la souffrance morale de la victime et 1 000 € pour les frais d'avocat. La jeune fille avait subi une vague de menaces par Internet après la publication d'une vidéo où elle critiquait l'islam. Direction maintenant le Vaucluse sur les routes du Tour de France.
RTL Tour de France 2021.
199 km entre Sorgues et Malocène avec la double ascension du Ventoux. On vous retrouve sur place, Christian Olivier, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Malocène, théâtre de cette arrivée de la 11e étape. Effectivement, Sorgues-Malocène au total 198 km. Première information, mais vous le savez, mais on le répétera car cela aura une incidence tout au long de cette course. Les premières très grosses chaleurs sur les routes du Tour de France. Par deux fois le Ventoux, nous n'y sommes pas encore. Côte de Fontaine, de Vaucluse, côte de Gordes, côte de la Liguière actuellement pour les coureurs du Tour de France. Chute et abandon de Tony Martin, le coureur allemand. Cavendish a été en difficulté dès les premières montées. Il a pu tant bien que mal réintégrer la queue de peloton. Abandon également du français Clément Russo de la formation Arkea qui était épuisé depuis ses efforts de ces derniers jours. Et une course débridée avec Julien Alaphilippe qui a mis un coup de pétard dès les premiers kilomètres. Nicolas Georgerot sur la moto RTL.
Oui, il a essayé de prendre l'échappée très rapidement dans cette 11e étape à la Philippe. Pour l'instant, dans un groupe de 4 en tête de cette étape avec Anthony Perez, avec Pierre Roland et avec l'Irlandais Dan Martin à environ une minute. Sur un groupe intercalé où il y a une douzaine de coureurs, dont Mollema le néerlandais, dont Van Aert le belge, mais aussi d'autres français comme Elis ou Paché. Et en revanche, revanche, maintenant, l'avance sur le peloton maillot jaune de Pogacar est en train de s'accroître aux alentours de 4 minutes. Ils sont dans le col de la Liguière. On est sur une route avec un revêtement plus mauvais, assez irrégulier. Complique un petit peu les choses et il y a cette chaleur également, et ensuite on sera vraiment sur les contreforts du Mont Ventoux.
Les choses sérieuses n'ont donc pas véritablement commencé. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30.
Merci Christian Olivier, on vous retrouve tout à l'heure. Il y avait du rugby également, Australie-France, c'était le premier de 3 test match. Suspense jusqu'au bout et finalement, victoire de l'Australie 23-21. La météo de votre mercredi, des orages se déclencheront à nouveau du sud-ouest au centre-est, mais ailleurs, le soleil devrait dominer. Les températures pour cet après-midi, 17 à Quimperlé, 20 à Cambrai, 21 à Soissons, 22 à Roanne, 25 à Grenoble, 27 dans l'Hérault à Saint-André-de-Saint-Gonis, jusqu'à 32 à Draguignan et 34 à Porto Vecchio en Corse.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
14h04, nous sommes avec donc Marie-Élise sur cet hymne italien qui est en miroir avec notre hymne français qui est, c'est vrai, pas toujours chanté, parfois susurré, parfois même oublié par les joueurs de l'équipe de France de foot. Marie-Élise.
Oui, bonjour Pascal Pro. Premièrement, je suis heureuse de vous avoir en ligne, mais je voulais vous témoigner mon enthousiasme que j'ai eu pour le football. Ah. Alors, je ne regardais pas du tout le football et d'un coup, ça a été grâce à cette équipe d'Italie, parce que j'ai commencé à regarder comme ça, bon, et puis quand je les ai vus jouer, j'ai dit mais c'est incroyable comment ils étaient, ils se démenaient, et je trouvais qu'ils avaient une force, qu'il y avait quelque chose de vivant dans ce jeu.
Exactement.
Moi qui connais rien, et même bon, j'ai mon fils, je vis avec mon fils, je lui posais des questions, j'ai dit oh là là, c'est pas possible, alors hors jeu ça veut dire quoi, machin et tout ça. Mais tout, je veux tout savoir maintenant. Ça m'a tellement...
Jamais vous avez regardé du football avant?
C'est-à-dire que je regardais comme ça. Vous savez, comme on regarde, on passe devant la télé, mon fils regardait, puis je m'intéressais pas. Si, les grands matchs, et tout ça, je les ai regardés. Mais pas au point de regarder l'heure pour voir quelle est l'heure du match. Mais ça devient incroyable.
Qu'est-ce que vous avez aimé? Donc, vous avez aimé cette espèce de combativité
Vous savez, je l'ai dit, j'ai de la famille. Oh là là, j'ai à déboucher. J'ai de la famille à Londres. J'ai ma tante qui habite Londres. Et je lui ai dit, tu sais, ça va être l'Italie qui va gagner. Parce qu'à tout le monde, je dis c'est l'Italie. Mais depuis longtemps que je le dis que c'est l'Italie. Peut-être qu'ils vont même gagner. Je veux dire, là, ils ont gagné là, mais peut-être que ça sera là aussi. Ils vont jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que je l'ai dit en amont. Alors, on pourrait me dire, c'est bien, hein, bien sûr, maintenant et tout ça. Et j'en parlais à mon fils. Et l'autre fois, je vais faire les courses. Hein, comme d'habitude, je fais mes courses. Au marché, j'entendais que les gens ils parlaient de l'Italie. Ah, parce que là, ils voient un peu comment c'est. Mais moi, j'ai dit, ça fait longtemps que je parle de l'Italie. Ça fait longtemps parce que ça m'a déclenché un truc. Cette Italie m'a déclenché quelque chose que je ne peux pas vous expliquer.
Mais écoutez, vous en parlez formidablement bien, Marie-Élise. Vous n'êtes pas une connaisseuse et vous avez perçu ce qu'il y avait. Vous avez perçu l'âme italienne de cette équipe.
Oui, mais en plus, vous ne savez pas, il y a même à quel point j'ai envie de savoir ce que ça veut dire hors jeu, ce que l'autre, tout ça. Vous savez, tout ce qui est technique, je ne connais pas. Alors il dit, oui, mais il y a pénalty. Ah oui, mais là, il n'est pas bon le but parce qu'il était hors jeu. Mais pourquoi? Et je veux savoir. Et je vais m'intéresser, ça m'intéresse. Je suis intéressée. C'est un truc de fou. Hier, justement, je descends, je vois des voisins, et puis il me dit alors ça va tout ça, et moi je dis ah non, moi j'ai regardé le foot, ah, t'es folle, t'es une coucou, tu regardes le foot. Tout le monde me regarde avec des yeux bizarres, mes copines,
mais non, mais
amis,
c'est bien,
beaucoup d'amis qui des femmes bien sûr, ils me disent ah tu regardes le foot, mais ça va pas, tu regardes le foot, l'air de dire je suis une extraterrestre parce que je regarde le foot. Mais j'aime le foot et je les ai vus. Et vous savez, quand j'ai vu l'équipe de France et tout ça, en plus, eux, comme ils sont déjà champions de quoi, d'Europe, non, du monde, champions du monde, vous voyez, comme quoi, je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'ils sont moins motivés. Je pense que ils ont envie de gagner. Alors, ils se démènent et je la trouve extraordinaire, cette équipe. Et quand ils ont chanté Nîmes, alors là, j'étais là devant, j'ai dit, mais là, ils chantent.
Eh bien, merci. Marie, parce que c'est vrai que c'est formidable. Le Fratelli d'Italia. Formidable. On dirait un opéra de Puccini.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
On va essayer d'avoir les paroles d'ailleurs. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est quand ils défendent et qu'il y a un corner qui a été concédé par un défenseur, ils se touchent tous les mains, ils s'embrassent. Il y a Chiellini, Bonucci, ce sont des hommes, ce sont des virils, ce sont des combattants, ce sont des gladiateurs du Colisée qui sont là. Aujourd'hui ressuscité.
Attends, toujours la mesure. Hein.
Non, mais
toujours.
Je trouve magnifique. J'adore cette équipe. Je suis tombé amoureux de cette équipe. Il nous entend, l'ami Christian Olivier, même s'il fait le Tour de France. Je suis sûr qu'il nous entend. Donc, je suis sûr qu'il pense peut-être comment. On pourrait peut-être lui demander s'il veut parler football.
Laissez-moi le temps d'une pause pour voir s'il est connecté, si on peut lui poser la question.
Ça sera avec plaisir, en tout cas. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Yves Montand, Pierre Cardin, Modigliani, ce sont évidemment des Italiens qui sont devenus célèbres en France. Et il y en a tant. Gambetta, Zola, Paul Belmondo, Lino Ventura, Serge Reggiani, Michel Piccoli, François Cavana, Uderzo, Dalida, Nino Ferrer, Coluche, Fabrice Lucchini, Michel Platini. Voilà des Français d'origine italienne ou des Italiens que les Français ont adorés. Et nous parlons de l'Italie. Nous sommes avec Daniel, qui est d'origine italienne. Bonjour Daniel.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Alors, comment vous vivez cette séquence de l'hymne et puis cette compétition où la squadra est en forme ?
Bah écoutez, au début, l'Italie n'était pas dans les favoris, on va dire. Et finalement, elle nous a proposé un jeu qui a étonné tout le monde. Parce que pour une fois, contrairement à la légende, l'Italie attaque et marque des buts. Donc ça a surpris pas mal de monde, je pense. Et c'est vrai que quand on voit cet hymne italien qui est chanté par les joueurs, c'est vrai que personne n'est insensible à ça, quoi. D'autant plus que moi, je suis d'origine italienne, donc voilà, je ressens ça vraiment très fort.
Est-ce que vous trouvez que ça fait sens ? Est-ce que ça en dit à la fois sur une équipe, mais aussi peut-être sur une nation ?
Bah, déjà, par rapport à l'équipe, je pense que déjà, c'est une équipe que Mancini a fait une équipe de copains, déjà. Et ça, c'est une force, je pense, parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux, je les suis pas mal par les réseaux sociaux, et dans les vidéos que je vois avant match, après match, on voit que c'est des gens qui aiment vivre ensemble, quoi, qui sont bien copains, qui rigolent, qui voilà.
Qui sont soudés d'ailleurs sur le terrain.
Et de ce fait, oui, ils sont soudés sur le terrain. Ils sont très solidaires. Quand on voit un Chiellini qui sauve un but en taclant, tout de suite le gardien vient vers lui, il tape dans les mains et allez, on y va. Alors qu'il y a d'autres équipes, on ressent pas ce truc-là, quoi.
C'est vrai que ça peut nous faire une finale formidable parce que c'est Angleterre-Danemark ce soir. Oui. Les Anglais, a priori, ont peut-être un petit avantage. En même temps, le Danemark aussi est une équipe fraîche. Mais ouais. J'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment que l'Italie sera favorite, que ce soit face à l'Angleterre ou face au Danemark.
Bah, disons que l'Italie a quand même éliminé deux favoris, hein, la Belgique et l'Espagne quand même. Mm-hmm. Bon, hier soir, c'était un peu galère, on va dire. On les a sentis un peu fatigués, on va dire. Mm-hmm. Bon, malgré tout, l'Espagne a quand même une belle équipe, hein. C'est dommage qu'il ne marque pas beaucoup de buts. Mais bon, ouais, l'Italie maintenant est favorite et j'espère qu'ils vont aller au bout.
Ben merci Daniel, merci beaucoup. Et vraiment, on a fait une petite séquence italienne qu'on a aimée. Et on va terminer cette émission avec le Tour de France.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et évidemment, c'est Pogacar qui nous fait réagir parce que lorsqu'on voit Pogacar, j'espère. Je ne sais pas si je le lis parfaitement bien. On pense le plus souvent à Armstrong, et c'est peut-être dommage d'ailleurs, mais on a été, je crois que c'est Christian Olivier qui disait ça, on a été cocufié en 1998 par Festina, et puis les années Armstrong ensuite. Donc on se dit, j'espère que cette histoire qu'on nous raconte est une belle histoire même, et je le disais aussi tout à l'heure, si Armstrong, ça reste un grand champion. Et c'est peut-être choquant de dire cela comme ça, mais ce qu'il a fait, il l'a fait. Il était dopé, mais ce qu'il a fait, il l'a fait. Donc Franck est avec nous peut-être. Bonjour Franck, qui habite en Mayenne et qui voulait peut-être évoquer Pogacar.
Ouais, Pogacar, ouais, je l'ai vu au contre-la-montre chez nous à Laval. Oui. Laval changer chez nous mercredi. Je le trouve pas dopé. Tout le monde dit qu'il est dopé. Moi, je le trouve pas. Je trouve que c'est un coureur qui est simple. On n'entend pas parler du tout dans la saison. Et je trouve qu'en plus, il a pas une équipe sensationnelle, hein, parce que par rapport à l'équipe Ineos, je trouve qu'il a une équipe pour gagner le Tour de France. Il a pas une équipe pour gagner le Tour de France. Et lui, il l'a fait par la pédale. Et je trouve qu'il a un mérite que tout le monde peut regarder. Il a 21 ans, c'est sûr qu'il est encore jeune. Ça fera, j'espère pour lui que ça fera son deuxième Tour de France qu'il va gagner. Mais pour moi, après, on sait jamais ce qui peut se passer. On peut pas savoir après par rapport au produit des pans. On n'a aucune idée. On sait pas si après, plus tard, on saura malheureusement qu'il soit dopé. J'espère pas quand même, parce que voilà, c'est un coureur que j'aime bien. Ça, franchement, je l'aime bien, Pogacar. Et j'espère qu'il y aura encore le Tour de France cette année.
Mais lorsque vous avez vu, je crois que c'était samedi, faire autant la différence, lorsque vous le regardez sans aucun doute, ou il y a une petite voix en vous qui s'élève et qui vous dit et s'il y avait derrière ces performances des produits qui n'étaient pas autorisés?
Bah moi je trouve que les performances, quand on voit une époque, moi j'ai vu Armstrong à une époque monter le Tourmalet et monter la Spin, je peux vous dire, moi j'avais l'impression de voir une mobilette qui roulait. Quand je vois maintenant que Pogacar, le coup de pédale qu'il a, il a sûrement un coup de pédale, bon normal pour un, parce qu'il adore la montagne, hein. Moi j'ai vu un reportage sur lui ce week-end, il adore la montagne, mais je vois qu'il a pas le coup de pédale qu'avait Armstrong, hein, parce que moi quand je voyais le coup de pédale qu'avait Armstrong, c'était vraiment autre chose.
Il était plus agressif encore, voilà. Armstrong.
Ah oui. Pour moi, il était plus agressif. Et c'est quelqu'un qui va, Pogacar va voir les journalistes. Armstrong a toujours eu du mal avec les journalistes à une époque, hein. Si je m'en rappelle bien. Voilà, et Pogacar va voir les journalistes. Il est très simple. Quand je vois le contre-la-montre qu'il a fait chez nous, je peux vous dire que quand il a fini le contre-la-montre, il était complètement cramé, hein.
Mais vous étiez sur le terrain là, vous étiez
j'étais pas sur le terrain parce que je ne pouvais pas être sur le terrain, mais je l'ai regardé à la maison. Quand je l'ai vu partir, il partait normalement, parce que voilà, mais je trouvais qu'il a fait un contre-la-montre, un bon contre-la-montre, ça c'est sûr, il n'y a rien à dire, hein. Il a survolé le contre-la-montre, mais bon, pour moi, il me surprend pas, c'est ce qu'il faut pour lui. Et l'équipe qu'il a, il n'a pas une grosse équipe, comme à l'équipe Ineos. Voilà, il est jeune, c'est sûr. Bon, après le deuxième du classement général l'année dernière, malheureusement, qui a abandonné. Et il était jeune aussi, hein, le deuxième du classement de l'année dernière, il était jeune aussi. Je crois qu'il devait avoir 23 ans, je crois, ou 24 ans, je crois, dans ces eaux-là. Bon, voilà. Après, j'espère qu'il va gagner le Tour de France, parce que je l'aime bien. Voilà, c'est un bon coureur.
Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci. Vous étiez. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir.
Ah, moi aussi, c'est un plaisir de vous avoir tous les jours.
Dernière partie de l'émission, il y a traditionnellement le débrief dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes avec Bernard sur le Tour de France. Toujours, bonjour Bernard. Avec,
bonjour Pascal.
Votre sentiment sur la course et sur Pogacar?
Ben Pogacar, la crainte que j'ai, mais bien que je l'admire, je crains qu'il ait déjà gagné le Tour. C'est un phénomène, c'est un sacré crack. Je pense aussi que il doit y avoir une école de cyclisme particulière en Slovénie, parce que j'ai aperçu d'autres coureurs de sa génération slovène qui sont un peu du même tempérament. Donc, Pogacar, pour moi, est le vainqueur potentiel dans 10 jours aux Champs-Élysées.
Bah, ça avait été difficile, effectivement, d'aller le déloger, bien évidemment. Oui, oui. Vous allez regarder cet après-midi et peut-être écouter RTL?
Là, je suis en train de... Je suis devant mon écran que j'ai mis en silencieux, enfin, mon télé que j'ai mis en silencieux, sur l'étape, là, du Mont Ventoux. J'ai quand même regretté la chute, enfin, la... de l'Allemand, là, comment il s'appelle, tout à l'heure, qui a abandonné d'ailleurs, malheureusement, et qui avait été la première victime lors de la première étape de la personne qui avait la pancarte, vous savez, la jeune femme qui avait causé l'accident, pardon, involontairement.
Oui.
Et c'est Tony Martin, l'Allemand, qui a rechuté tout à l'heure et qui a dû abandonner. C'est un type. Il y a quand même des cyclistes qui n'ont pas de bol. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Et ça m'attriste beaucoup.
C'est le Mont Ventoux. Merci. C'est le Mont Ventoux. Pardonnez-moi, Bernard. Et c'est cet après-midi et on va l'escalader d'ailleurs, mais le monter.
Ah non, surtout pas.
On va le monter.
Sans moi.
On va le monter deux fois. C'est l'heure du débrief. Merci, Bernard. Et vraiment à très vite sur l'antenne d'RTL. Laurent pour le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Nous pouvions parler aujourd'hui de l'affaire Mila, des excuses de Disneyland Paris, de la domination écrasante de Pogacar sur le Tour de France. Non, un sujet vous a interpellé, Pascal.
J'ai l'impression qu'on a sonné chez vous, Sabine.
Non, mais ça y est, ça a répondu.
Ah, toc toc toc, qui est là ?
Mais qui est-ce qui a sonné chez vous ?
Mais quel curieux !
Non, mais qui est-ce qui a sonné ? Qu'on sache quand même. Qui a sonné ?
Je ne sais pas moi-même.
Il y a des gens qui sonnent chez vous et vous ne savez pas qui vient chez vous ?
Non, je ne sais pas. Je ne suis pas seule chez moi. Donc
alors, qui a répondu ? Qui a ouvert la porte ?
Eh ben, je pense que c'est ma fille.
C'est votre fille qui a... Et elle a quel âge, votre fille ?
Elle a 14 ans.
Et là, on oublie tout dans l'émission, c'est devenu l'interrogatoire.
Un petit copain, peut-être, qui vient la voir ?
Ah non.
mais attendez, Sabine.
Pas encore à la maison.
Donc c'est une amie, un ami qui vient avec elle faire des révisions ?
Je pense que c'est son repas, en fait.
C'est son repas qui vient, son repas sonne.
Mais j'ai comme l'impression qu'il y a pas mal de monde qui vient déjeuner chez Sabine.
Jordi, j'ai entendu. Ah, regardez, il y a encore une petite sonnerie, j'ai l'impression.
Ouais, mais là, je sais pas ce que c'est. Je pourrais pas
c'est
vous dire.
Il y a du monde qui défile chez vous, si vous me permettez. Sabine, j'ai l'impression qu'il y a du passage.
Ah, ça sent aussi la grosse fiesta chez Sabine. Allez, on invite tous les amis à la maison, c'est tellement sympa pour les parents.
C'est merveilleux de vous rentrer le soir et puis hop, il y a 25 personnes dans le salon, vous n'aviez pas imaginé.
C'est vivant.
Et puis les rideaux sont cassés. Ça, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie.
Bon, vous étiez quand même plus sage, Pascal, que toute cette jeunesse.
Ils fument, ces jeunes gens. Ça arrive parfois, les jeunes gens. Alors qu'à notre époque, on ne fumait pas, bien évidemment. On ne buvait pas, on ne fumait pas.
Pipo.
Oui, bien sûr. Greg Caranoni, parlons Tour de France, s'il vous plaît. La domination écrasante du maillot jaune Pogacar sème-t-elle le doute ? Le coureur cycliste se défend et aujourd'hui, c'est une étape très particulière.
Le Mont Ventoux !
Et vous avez des projets pour Nicolas Georgerot sur la route du Tour.
Voilà. Bon, vous êtes sur une moto. L'année prochaine, la direction d'RTL a décidé que vous feriez le Tour, mais sur un vélo pour être à égalité avec les coureurs. Cher,
vous viendrez avec moi.
sur votre porte-bagages.
Un bon courage à tous les deux. Sport toujours, l'Italie est en finale de l'Euro. Et là, aucun filtre, Pascal. Vous êtes tombé amoureux d'un pays.
On est un peu des Italiens. Mon cœur était du côté italien. Pourquoi, lorsqu'on est français, on se sent peut-être plus proche de l'Italie que de l'Espagne ? J'ai le sentiment, en tout cas. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde.
Ah bah, pas de bol, vous dites ça à la seule personne dans cette émission qui est d'origine espagnole, moi-même. Donc allez, monsieur Greg Caranoni, l'Italien des auditeurs, la parole. Faites-moi plaisir.
Por eso se oye este refrain.
Comme je ne veux pas me faire des ennemis chez nos camarades italiens, terminons ce débrief avec les plus grandes chansons italiennes.
Ça, c'est une bonne idée.
Allez, une déclaration d'amour.
Umberto Tozzi.
Vous dansez un slow sur cette chanson, c'est gagné.
Ça doit être 77, je pense. Non. On danse tous les deux ou pas pour la fin de l'émission ?
Non, avec Greg si vous voulez. Mais...
Parce que les gestes barrières, Pascal.
Oui, distanciation physique.
Vous avez déjà été dans des mariages parfois où on danse ensemble.
Et après ?
Non, et après.
Ah, je pensais qu'il y avait une suite.
Mais pardon, rien.
Non, mais alors il n'y a pas d'intérêt, pardonnez-moi, à cette question. Êtes-vous allé dans des mariages où les gens se mariaient ?
Oh oui.
Ça m'est arrivé une fois, peut-être.
Mais non, c'est pas les slaves, ça n'existe plus.
Les slaves,
ça n'existe plus.
On les voit avec dans les mariages, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis mal exprimé. Olivier est là, je le vois derrière la vitre. Je ne vois plus Rachel derrière la vitre, elle ne passe plus.
Le système fonctionne peut-être moins bien.
Il nous reste,
le système fonctionne à distance.
Il nous reste jeudi et vendredi. Après, on est en vacances.
Alors, vous êtes en vacances.
Ça sera Christelle la semaine prochaine. Christelle Rebier.
Oui,
nous sommes d'accord. Les auditeurs sont programmés une bonne partie de l'été.
Tout l'été.
Et nous, on reviendra le 23 août.
Le jour de notre anniversaire avec Greg.
Vous êtes né le 23 août ?
Oui, tous les deux,
mais
pas
nous
de la
sommes pas frères.
C'est pas vrai. Vous êtes né le même jour ? Vous êtes né sous le signe de la Vierge.
Comme vous.
Mais c'est formidable, moi je savais pas qu'on est tous les trois nés sous le signe de la Vierge.
C'est une équipe qui gagne.
Écoutez, alors ça c'est rare quand même, non?
Oui.
Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble, il était temps de s'en rendre compte.
Et sur Bercy, Greg Caravani.
On fait une pause parce qu'on va retrouver le Tour de France juste après.
Et puis, qui est-ce qui sera sur le Tour de France?
Nicolas
Georgerot.
Pour Confidentiel.
Il a été très surpris parce que je lui ai parlé de Charlie Gaulle tout à l'heure. A tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole.